Radio Barque, un invité sur Grand Sud FM pour mieux connaître ceux qui font l'actualité régionale. Radio Barque, c'est le 25e de notre 10e saison. Notre invité est aujourd'hui Yannick Séguier. Bonjour.
Bonjour.
Alors Yannick Séguier, vous faites du cinéma, vous faites de l'histoire. Je vais vous demander d'abord de vous définir, de nous expliquer un peu quel est votre profil ou quels sont vos profils.
Alors mon profil, aujourd'hui je suis plutôt réalisateur de films, mais je viens plutôt du scénario, c'est-à-dire donc de l'écriture au départ, avec derrière des traductions, souvent en mise en scène théâtralisée, et également un travail de réalisation cinématographique.
Oui, alors à propos de cinéma, ça va nous tenir en éveil pratiquement tout au long de cette émission. Vous allez nous parler de votre dernier film intitulé « Il était une fois le midi viticole ». Mais on va y revenir. Yannick Séguier, quand vous étiez petit en quelque sorte, est-ce que vous voyiez déjà dans ce rôle ?
Alors, pas forcément dans ce rôle-là, mais effectivement, quand j'étais enfant, je viens de Fabrezan, dans les Corbières. Je suis né dans une famille qui était très très active sur le plan de l'éducation populaire. En l'occurrence, organiser des événements avec la population, faire participer des gens différents et arriver à fédérer ces gens-là. Donc j'ai grandi dans cette histoire-là.
Oui, votre père organisait déjà dans le village un certain nombre de manifestations de ce type.
Oui, je vais dire mon père et ma mère.
Oui, peut-être voilà. Les deux. Désolé d'oublier.
Oui, ils organisaient en particulier à Fabrezan, il y a eu pendant 20 ans des fêtes 1900.
Voilà.
De 1981 ou 82 jusqu'au début des années 2000. Qui avait une particularité, c'était une reconstitution de tout le village avec les anciens métiers, les anciens métiers d'artisan qui existaient à l'époque 1900. Et c'était les gens du village qui animait tout ça.
Oui, donc c'était les Fabrezanais qui étaient sur scène. Enfin, sur scène, c'était pas la scène, c'est la rue.
Oui, mais c'est la rue et c'est une scène ouverte. Effectivement, il y avait peut-être, Fabrezan, il y avait 1000 habitants, 1100 habitants à cette époque-là, et il y avait 200 bénévoles qui participaient à cette opération, qui drainaient sur 2-3 jours entre 3-4 000 personnes quand même.
C'était oui, pas... oui, oui. Alors, donc finalement, là, vous avez attrapé le virus très tôt.
Alors j'ai attrapé ce virus, j'allais dire de cette mise en scène, de d'organiser les choses, je suivais, etc. Et puis il y avait un deuxième aspect que j'ai eu depuis tout petit, c'est que j'ai toujours aimé l'histoire et l'histoire que me racontaient les gens. Je raconte souvent quand je revenais de l'école, j'habitais au centre du village, à côté de l'église, et il y avait une place où de nombreuses personnes âgées habitaient. Et quand j'arrivais de l'école, j'allais goûter chez ces gens. J'avais 6 ans, 7 ans, 8 ans, c'était comme ça. Et je discutais avec ces personnes qui avaient 70, 75 ans et qui me racontaient leur jeunesse, leur vie d'avant. Et enfin, je me disais, un jour, il faudra que tu le racontes, ça. Et voilà, et je l'ai fait de différentes façons. Dernièrement, je l'ai fait sous forme de film documentaire à travers l'histoire de village, mais à travers les histoires de vie des gens.
Mais alors, il vous racontait l'histoire ou des histoires ?
J'ai envie de dire qu'il me racontait les deux. C'est-à-dire que quand on raconte sa propre histoire, même si c'est des anecdotes, même si c'est des moments de vie, il percute toujours un moment historique. Et donc, je me renseignais après sur ce moment historique. Ça m'a permis d'aller d'aimer l'histoire, de me renseigner sur l'histoire, mais parce que justement, on me l'avait raconté... peut-être par la petite histoire, hein, et après j'allais essayer de me renseigner justement sur cette grande histoire.
Oui, voilà. Enfin, donc les deux, aucun n'est à négliger dans ce processus.
Non. Et d'ailleurs mon travail, souvent, quand on parle, on me dit tu fais du spectacle ou du film historique, moi j'ai envie de le définir entre un petit peu l'histoire et l'ethnographie, c'est-à-dire entre cette passerelle qui fait les deux. Moi je pense que on ne peut comprendre la grande histoire que si, à un moment donné, elle est concrète, c'est-à-dire comment les gens l'ont vécu, comment elle a percuté les gens, comment dans des villages, comment dans des villes, ça a été accepté ou pas. Et j'aime beaucoup ce travail-là, c'est-à-dire toujours de me poser la question, est-ce que ce qu'on nous apprend, ce qu'on nous apprend dans des livres, fort intéressant, mais comment les gens l'ont vécu, quoi.
Oui, ce qu'on appelle la grande histoire, peut-être à tort, et au détriment de la petite histoire.
Oui, puisque bon, le travail d'historien, en tout cas, si on se réfère aux historiennes du 19e et j'allais dire de la grande partie du 20e siècle, on s'est toujours intéressé, bien entendu, ce travail-là, c'était un travail, j'allais dire, de la grande histoire, ou au roman national. Bon, depuis maintenant une trentaine d'années, il y a vraiment un travail d'historien qui se fait aussi, qui part de la grande histoire, mais qui redescend dans les régions, qui redescend et qui se pose d'autres questions que les questions qui ont été que les réponses qui ont été apportées, j'allais dire au niveau des élus, des décideurs ou des gouvernements.
Oui, c'est-à-dire que dans l'histoire, il n'y a pas que des gouvernants.
Et non, moi par exemple, j'ai fait un film sur l'histoire de l'Aude, qui s'appelait L'Aude, quelle histoire. Ce qui m'a vraiment intéressé dans mon écriture, c'était de me poser la question comment les Audois ont vécu cette histoire. Je prends un exemple, par exemple le 14 juillet 1789, à Paris, à la prise de la Bastille, et moi en fait j'ai mis des gens sur une barque, sur l'étang de Bages, qui n'étaient pas contents parce que la pêche n'était pas bonne.
Oui,
voilà.
Oui. Bon, donc on sait ou on ne sait pas que pour que l'information arrive jusqu'à Narbonne, il a fallu un certain nombre de jours.
Ah oui, je crois qu'il fallait pratiquement à pied 25 jours pour descendre de Paris jusqu'à Narbonne. Et effectivement, comme il n'y avait pas de moyens de communication, les régions comme la nôtre étaient des régions défavorisées, c'est-à-dire que on vivait un peu en autarcie, on vivait pas l'histoire comme on la vivait à la capitale, et elle n'arrivait que bien plus tard. Ou elle n'arrivait pas, des fois.
Oui, ou elle n'arrivait pas. Ce qui fait que, pour reprendre votre exemple à Yannick Seguier, le 14 juillet 1789, à Narbonne, on se souciait, ou sur les étangs, plus de la mauvaise pêche que de la prise de la Bastille, dont on ignorait tout.
Et oui, c'est ce qui est intéressant, c'est-à-dire que... Mais en même temps, la prise de la Bastille et la Révolution va après avoir une influence, bien sûr, sur la vie des Narbonnais, ou enfin, en tout cas des Audois, mais voilà, ça arrivera un petit peu plus tard, ça arrivera différemment, mais par contre, ça impactera effectivement la vie politique. Mais voilà, moi ce qui, voilà, j'aime beaucoup cet aspect-là, et essayer de le mettre en parallèle.
Alors, vous avez comment, enfin, je ne sais pas si vous avez commencé, mais en tout cas, dans le passé, vous avez fait pendant longtemps, vous avez organisé des spectacles, par exemple, à l'abbaye de Foncalvi à Ouveillan.
Voilà. Alors oui, j'ai fait deux types de spectacles, des spectacles vraiment historiques, comme peut-être vous vous souvenez de Pierre Brossolette ou Le Grand Jaurès ou 14-18, La fin d'un monde. Et puis ensuite, j'ai travaillé à Foncalvi pendant 6-7 ans. Alors là, c'était pas dans du spectacle purement historique. On est vraiment dans du spectacle historique mais de divertissement. L'idée, c'était d'utiliser le site de Foncalvi, de raconter une histoire et ensuite, de permettre à un public, de passer une bonne soirée. Il y avait de l'humour, on mettait de la lumière, on avait une quarantaine de personnes qui jouaient sur les différents plateaux que l'on avait organisés. Et c'est une très très belle expérience, ça en termes de mise en scène et de faire vivre du spectacle vivant.
Oui, voilà, mais c'était d'abord du spectacle.
Là, c'est d'abord du spectacle. Et alors, souvent, c'était rigolo parce qu'on me disait, tu as fait un spectacle prémonitoire, puisqu'en 2019, j'ai fait un spectacle qui s'appelait La peste débarque à Foncalvi. Et donc, c'était un spectacle sur une épidémie. On ne savait pas encore que l'année d'après, on aurait le Covid.
Oui, voilà. Ça rappelle un petit peu le côté cyclique des événements. Oui. Et que l'histoire se reproduit plus ou moins de la même façon. Une petite parenthèse. Vous avez évoqué, Yannick Seguier, le nom de Pierre Brossolette, qui n'était pas du tout audois ni occitan, qui était parisien, mais qui a été un résistant et qui a un monument à Saint-Pierre-la-Mer. Alors pourquoi ?
Bien, Pierre Brossolette donc était le responsable de la résistance en zone nord, et donc il faisait des voyages entre Londres et Paris. Et donc pour l'exfiltrer de la région qui était occupée donc par les Allemands, la zone nord, eh bien il descendait et il a rejoint De Gaulle libre, voilà. En zone libre et il a rejoint De Gaulle en 1942. Il est passé, il est parti de Narbonne-Plage. Un épisode assez compliqué puisque la police française et les douaniers leur ont tiré dessus, mais il a pu quand même rejoindre le sous-marin qui l'attendait au large de Saint-Pierre et Narbonne-Plage.
Oui. C'est entre les deux. Voilà donc un mot d'explication sur l'existence de ce monument qui est perché sur le rocher à la limite de Narbonne-Plage et de Saint-Pierre-la-Mer, c'est ça?
C'est ça. D'ailleurs, en fait, il y avait cinq colonnes qui représentaient les notes du débarquement de Normandie.
Oui, ah, voilà, tout un symbole au moment de la construction de ce monument. Alors revenons dans l'histoire, votre histoire, Yannick Séguier. Très vite après alors Foncalvi, c'était quoi, du théâtre? On peut appeler ça du théâtre?
Oui, on appelle ça du spectacle vivant puisque on utilise tous les supports que l'on souhaite, tous les supports artistiques. Donc moi, j'hésite pas à utiliser bien sûr du théâtre, mais il peut y avoir un peu de cinéma dedans, de la danse, de la musique, etc. Voilà.
Oui, donc du théâtre au cinéma, il y a qu'un mot. On va y revenir dans une deuxième partie. On marque, Yannick Séguier, une première pause.